BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est un tournant pour l'industrie crypto, 10 ans après la première demande. Le tant attendu ETF Bitcoin Spot est approuvé. Cette fois-ci, on en est certain, la SEC a dû a priori changer son mot de passe Twitter. Pour en parler, j'accueille Grégory Raymond. Bonjour Grégory.
Salut Amaury et bonne année.
Merci, toi aussi.
Tu es joyeux ETF aussi.
Mais joyeux ETF, voilà, l'année commence très très fort pour l'écosystème crypto. On en parle dans quelques instants. Je rappelle que tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Adli Takalbatai, président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital, est en ligne avec nous. Bonjour Adli et bonne année et belle ETF.
Bonjour, bonne année.
Voilà, j'ai plein de questions à vous poser messieurs, mais d'abord, on voit tout de suite comment le marché crypto a réagi suite à cette annonce historique. Car oui, le Bitcoin est désormais coté à Wall Street. Nous sommes en ligne avec Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Bonjour Amaury.
Valentin, bonne année, plein de bonnes choses aussi. Et le Bitcoin, lui, gagne 4% ces dernières 24 heures et nous sommes à plus de 47 000 dollars. Il reste finalement assez stable après cette annonce, Valentin.
Ouais, c'est parfait pour commencer l'année. Je pense qu'on se rend même pas bien compte des impacts qu'il va y avoir par la suite d'un point de vue volume et d'un point de vue structure du marché. C'est vrai que c'est même au niveau psychologique, hein, que ce soit pour des raisons de potentiel de réserve de valeur, de on va dire de sûreté d'un point de vue monétaire dû à une volatilité qui pourrait baisser. Grâce à ces volumes qui seraient conséquents. Là, pour vous dire, on est déjà à 10 fois le volume moyen qu'on avait avant la fausse annonce, qui avait déjà dopé les volumes. Donc, rien qu'en quelques jours, c'est absolument hallucinant. Malgré tout, on bute quand même sur les résistances parce que ça restait une nouvelle qui était connue du marché. Donc, il n'y a pas eu, bien sûr, d'envolée spectaculaire, même si on a progressé de quelques pourcents. Maintenant, c'est vrai que ça risque quand même je pense que les résistances vont tenir quelques jours personnellement, mais vu l'augmentation du volume et l'attrait médiatique qu'il va y avoir sur cette nouvelle, je vois pas comment on pourrait pas passer au-dessus des derniers plus hauts là sur la fausse nouvelle. On avait fait 47 943, ce sera le premier élément à dépasser pour viser les 49 550 000 et puis ensuite honnêtement la porte où sera ouverte à Je préfère pas me positionner sur des 100 000 dollars ou autre qu'on commence à voir de partout, mais c'est vrai que cette professionnalisation du marché donnera un potentiel énorme par la suite, je suppose, au Bitcoin, en tout cas de mon point de vue.
Bah, les 100 000, c'est un peu comme l'ETF, on sait pas trop quand ça arrivera, mais ça, c'est fort possible que ça se passe. Un petit mot rapide sur l'Ethereum qui, lui, n'a pas encore d'ETF, mais surperforme le Bitcoin, hein, plus 10%
ouais,
ces dernières 24
heures. Bien sûr, je pense qu'il profite de ce côté hausse des volumes qui vont être indirectement amenés sur ce marché-là. Et c'est vrai que le deuxième bénéficiaire, on le sait, sur ce marché-là, ça reste l'Ethereum. Donc, il a profité de la nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est un élément aussi positif pour Ethereum que pour Bitcoin? Personnellement, je ne pense pas. On verra d'ailleurs l'évolution sur les volumes sur l'une et l'autre des crypto-monnaies sur les deux premières semaines, par exemple. Et je pense qu'on comprendra déjà de plus de quoi on parle. Mais ça va être passionnant de voir comment se structure le marché et ce que ça va apporter d'un point de vue valorisation de l'actif, hein, même d'un point de vue fondamental.
Eh ben, on surveillera ça, hein, de toute manière. Là, ça y est, c'est adopté. Donc, on va suivre ce qu'il se passe sur le marché dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup, Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée, bonne soirée, Valentin. Messieurs, Grégory, on va commencer par toi. Je voulais juste avoir ton sentiment, voilà, après cette approbation d'ETF, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, je te lance comme ça parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, on a beaucoup parlé partout. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que ça te fait, voilà?
Eh bien, en tant que suiveur du secteur depuis environ 2016, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé dans le secteur, on parlait déjà de cet ETF. Le premier dépôt de dossier, il remontait à 2013.
Hein, donc c'était déjà un sujet, parce qu'en fait, nous, on en parle surtout depuis juin, avec le BlackRock qui a déposé son dossier, mais en fait, ça date d'il y a plusieurs années.
Exactement, exactement. Et mon premier article sur le sujet, je l'ai retrouvé là récemment, il remonte à 2018. Hein. Donc en fait, c'était une arlésienne, hein, le ETF Bitcoin. mais ça s'est concrétisé, comme tu le disais, en juin dernier, en fait, quand BlackRock a déposé son dossier, parce qu'on savait qu'en fait, quand BlackRock se lance, généralement, ça suit derrière. Ça a mis en gros 6 mois, donc ça a été assez efficace. Bon, voilà, on est content en tant que suiveur, parce que c'est la poursuite de l'institutionnalisation de cette nouvelle classe d'actifs. Bon, c'est intéressant, mais je suis aussi content parce qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose, parce que ces derniers mois, tout était focalisé là-dessus. On a peut-être fait abstraction de plein de sujets intéressants. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Bon, je pense qu'au niveau de l'actualité, l'ETF d'Ethereum va monter en puissance, mais n'oublions pas qu'il y a des sujets techniques très intéressants comme le staking aussi.
J'ai eu peur effectivement que l'ETF soit encore repoussé au 15 mars et là je me suis dit aïe aïe aïe, encore plusieurs semaines à parler de cet ETF Bitcoin Spot. Bon, là c'était hier soir donc on en parle, mais effectivement j'espère qu'on parlera évidemment de bien d'autres sujets. Adli, un peu la même question, comment t'as vécu, quel est ton premier commentaire après cette grande nouvelle hier soir?
Pour le coup, je suis arrivé dans les cryptos au moment où ça parlait d'ETF. Donc, pour la première fois, c'est quand les Winklevoss, donc les frères cofondateurs Facebook, avaient acheté
213
Bitcoin. Pardon ?
C'était en 2013, alors.
2013, ouais. Quand ils avaient acheté 200 000 Bitcoin pour un ETF. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, en plus, à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est, comme l'a dit Grégory, c'est néerlandaise. Par contre, je pense que oui, avec ce qui passe, vu qu'en mai, on devrait avoir des premières décisions sur Ethereum, il y a quand même de très très grandes chances que qu'on continue d'en parler, j'ai envie de dire, et que les yeux se rivent sur un nouvel ETF. Par contre, il y a un point très intéressant quand même, c'est ce qu'a déclaré donc Gary Gensler de la SEC, et ce qui motive en partie sa décision, qui est quand même, moi c'est un texte qui m'a marqué, je l'ai même proposé à un prix de texte de l'année, l'Odell Prize, où en fait il y a eu un jugement quand Grayscale a voulu se transformer son trust en ETF. Ils ont porté plainte contre les décisions de la SEC et rejeté leur ETF, et la conclusion du juge est très très intéressante et dit que il y a clairement un abus de pouvoir non justifié de la part de la SEC de refuser les ETF. Et Gary Gensler en parle dans la déclaration qu'il a faite hier. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est un triste aveu du régulateur que c'était un choix politique de refuser ces ETF avant d'être un choix pour protéger le consommateur. Tout le monde s'est moqué de Gary Gensler et de la SEC avec le fait qu'ils se sont fait hacker leur compte Twitter. Mais j'ai envie de dire que ça en dit long sur l'utilisation, entre guillemets, du régulateur par soit des buts politiques, ou on peut penser peut-être à du lobbying aussi d'une certaine manière, qui viennent du côté des banques ou que sais-je, mais en tout cas c'est une étape intéressante parce que elle prouve que une décision de justice finalement qui met que ça vaut le coup de se battre parfois contre le régulateur quand on est dans son bon droit, et qu'une décision de justice finalement qui est parfois plus neutre et moins politique peut avoir une importance dans un changement de cap d'un régulateur sur des décisions.
En parlant de protection du consommateur, ce qui est intéressant et un petit peu cocasse, c'est que un des arguments de la SEC pour refuser cette ETF, c'était l'argument de « attention, il peut y avoir des manipulations de marché ». Et la SEC, il y a 48 heures, a elle-même manipulé le marché et va devoir enquêter contre elle-même. Grégory, qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors, on ne peut pas vraiment parler de manipulation de prix, mais en tout cas, ils ont mal fait leur boulot et ça a abouti à des troubles sur le marché.
Ah, mais on ne dit pas qu'ils l'ont manipulé, que ça a été, comment dire, que ça a été volontaire, mais malgré eux, il y a eu quand même une manipulation de marché.
Du point de vue
du
régulateur, c'est dramatique, la gestion de cette histoire, et j'espère que les personnes qui sont responsables seront poursuivies ou en tout cas sanctionnées, parce qu'il y a eu, des mouvements de milliards et de milliards de dollars sur le marché à cause de bévues, tout simplement. Quelqu'un qui s'est fait hacker le compte Twitter de la SEC juste parce qu'ils n'avaient pas mis une double authentification, alors que c'est la base, notamment pour un régulateur financier. C'est incroyable, vraiment, ce qui s'est passé.
Oui, en plus, Gary Gensler, il y a encore quelques semaines, tweetait sur la cybersécurité et donnait ses conseils, et visiblement, la SEC elle-même ne les a pas forcément suivis. Adli, est-ce qu'on a une idée un peu du volume de la liquidité qui pourrait être apportée là, à court terme par ces ETF?
Il y a plusieurs... J'ai vu des bruits de couloir plus que des confirmations. Il y a eu quelques entreprises qui ont parlé de quelques centaines de millions ou dizaines de millions, mais ce qui est disons, de l'ordre de ces ETF, pas forcément d'énormes quantités. Mais en bruit de couloir, il y aurait, de ce que j'ai compris, peut-être 2 milliards qui vont rentrer chez BlackRock assez rapidement. Dans les autres ETF, on parle aussi de centaines de millions. Donc peut-être que... Enfin, j'aime pas faire des prédictions comme ça, brûle pour point, mais on peut penser en tout cas que c'est déjà quelques milliards de liquidités qui vont rentrer assez rapidement. Mais le plus important sur l'ETF, c'est plutôt le long terme. Parce qu'en fait, comment dire... Bon, il y a tous les gestionnaires de patrimoine qui vont pouvoir accéder plus facilement. Mais il faut pas oublier que tous les gens qui gèrent de l'argent, ils ont des mandats ou des thèses d'investissement. Donc, avant que tous ces gens investissent, entre guillemets, dans les ETF Bitcoin, il faut soit qu'ils aient un mandat totalement discrétionnaire où le gestionnaire fait ce qu'il veut, soit qu'ils changent leur mandat ou leur thèse d'investissement pour inclure une nouvelle classe d'actifs, même si, bon, là, Bitcoin rentre dans les commodités. Mais je pense qu'en tout cas, du point de vue de la transparence de leurs clients, ils vont devoir... ajouter crypto-monnaie ou crypto-actifs dans leur thèse d'investissement ou Bitcoin pour pouvoir tranquillement investir dans ces ETF. Donc je pense qu'on va avoir un peu de délai sur vraiment la montée en charge que ça va dans ces ETF et surtout c'est aussi le temps que toute la finance traditionnelle intègre potentiellement dans leur modèle le Bitcoin. Chose que a fait par exemple Tobam depuis très longtemps en France, en considérant que c'était un actif de diversification qui est non corrélé aux autres actifs nécessairement. Et donc ouais, je pense que là dans les jours, semaines à venir, on risque de voir quelques milliards, mais c'est surtout sur le long terme que ça va porter ses fruits et ça pourrait peut-être dans un avenir pas si lointain représenter beaucoup de la market cap de Bitcoin.
Bien sûr, et en quelque sorte, là, on est en train de poser les tuyaux et le liquide devrait arriver plus tard. Grégory, tu voulais réagir à cette histoire de quantité de liquidité potentielle ?
Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un afflux de liquidité extrêmement important. Déjà, enfin, pour deux raisons. Hein. La première, c'est que pour la réserve de démarrage, je pense que les bitcoins ont été acquis quand même depuis un moment par les émetteurs d'ETF. Ils ne vont pas le faire du jour au lendemain et surtout, ils ne vont pas le faire sur le marché. Ils vont aller voir des market makers ou des desk OTC, faut pas s'attendre à ce qu'ils aillent sur les bourses type Binance ou Coinbase comme ça du jour au lendemain. Donc on ne le verra pas, il y a déjà des réserves constituées. Et aussi pour les épargnants et les investisseurs qui seront intéressés par ces produits-là, je pense qu'il faut pas croire qu'ils sont dans les starting blocks en attendant que Wall Street ouvre aujourd'hui pour enfin investir dans le Bitcoin avec un compte titre. Ces gens-là, très motivés, ils ont déjà fait leurs recherches depuis un moment et puis ils ont investi directement avec des plateformes crypto. Je pense que c'est le temps long qu'il faut privilégier. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que BlackRock, Fidelity, donc les gestionnaires de fonds qui sont parmi les plus importants du monde, vont devoir marketer ces produits-là pour les vendre, hein, tout simplement. Et je pense qu'ils vont expliquer que Bitcoin, il est disponible en quantité finie dans le monde. Il y a la limite des 21 millions. D'unités, que ça peut être un rempart par rapport aux monnaies faibles, un hedge par rapport à l'inflation, enfin toute cette narrative qu'on connaît nous parce qu'on est expert du sujet, mais là le grand public va être exposé en fait à cette communication mondiale de la part de sociétés comme BlackRock. Donc sur le temps long, ça peut avoir un impact énorme sur l'opinion que les gens ont en fait du Bitcoin en tant qu'actif de diversification.
Voilà, ouais, il va y avoir tout un marketing des ambassadeurs de Bitcoin qui va être fait par toutes ces institutions financières. Grégory, moi j'avais une question, c'est pour nous en France, là tout de suite, qu'est-ce que ça change pour nous là ? Est-ce qu'à court terme, ça change quelque chose pour ceux qui sont en France, voilà, les investisseurs français tout de suite ?
On risque de décevoir beaucoup de monde, ça va absolument rien changer, parce que les ETF qui sont émis là à partir d'aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas accessibles aux épargnants qui se situent en dehors des États-Unis. Donc là, c'est simplement les épargnants américains, à part peut-être bien sûr quelques acteurs institutionnels européens qui ont accès au marché américain, qui pourront investir dedans. Mais non, en fait, il faudrait que ces ETF soient également enregistrés en Europe pour qu'on puisse y accéder. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que ça évoluera dans le temps parce qu'il y a plein d'ETF de BlackRock hein, qui sont disponibles en Europe. Mais là, à ce jour, nous, on ne peut pas investir dedans.
Adli, pour toi, qu'est-ce que à court terme, il va pas se passer grand-chose ? C'est plus sur le long terme qu'il y aura vraiment quelque chose par rapport à ces
ETF ? Oui, moi, je pense que c'est sur le long terme. Et en plus, c'est aussi, il ne faut pas oublier, une victoire symbolique. C'est-à-dire que Bitcoin est quand même plus ou moins décrié par les institutions depuis longtemps. On a commencé à avoir des banques qui intéressaient à l'intégrer potentiellement Bitcoin. Maintenant, les ETF. Après, on peut dire que de toute manière, ces acteurs financiers rationnels, donc ils n'ont pas pu passer à côté au vu de ce qui est devenu Bitcoin. Mais ce qui est, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est malgré tout, j'ai envie de dire, une victoire en termes de légitimation de ce qu'est Bitcoin. Peut-être que ça va être considéré plus normal d'avoir des bitcoins, j'ai envie de dire. Il va peut-être y avoir un peu moins de chasse aux sorcières. Je pense qu'il y aura toujours des anti-bitcoins. Mais en tout cas, on est encore, je pense, très loin du plateau. Hein. Je pense que Bitcoin a encore beaucoup de croissance devant lui et les crypto-monnaies de manière générale. Même s'il y a un ETF, on est encore tôt, j'ai envie de dire. Il est encore tôt, surtout. Je pense que là, ça crée de la spéculation, ça recrée un flash de lumière sur les cryptos. Il y a bien sûr le nouveau regard qui va se tourner sur l'ETF Ethereum. Pardon. Il y a également le halving de Bitcoin qui va se passer.
Oui, on est à moins de 100 jours du halving de Bitcoin, l'instant devrait avoir lieu le 19 avril.
Il y a vraiment un combo, j'ai envie de dire, de lumière, de mise en avant de sur la crypto cette année 2024 dans son ensemble. Je pense que c'est l'année qu'il faut scruter dans son ensemble et que l'ETF est une des nouvelles qui va bousculer les cryptos cette année. Après, il faut rester aussi prudent. Il y a eu parfois de très bonnes nouvelles crypto qui se sont suivies de nouvelles moins réjouissantes. On peut se souvenir notamment de l'introduction en bourse de Coinbase où Bitcoin avait atteint un plus haut avant de quelques jours plus tard chuter en cascade. À la suite à la fois de quelques déclarations d'Elon Musk et de la Chine qui choisissait de bannir à nouveau les mineurs et Bitcoin. Donc, on reste, je pense, on arrive à un bon stade de légitimation, mais tout peut encore arriver sur certains aspects.
Donc, Grégory, t'es d'accord avec ce que dit Adli, dans le sens où c'est pas forcément à court moyen terme la liquidité des ETF que les ETF peuvent apporter sur le marché qui va être importante, mais plus une sorte de victoire idéologique, entre guillemets. Moi, j'étais encore hier soir sur cette chaîne et j'avais quelqu'un face à moi qui me disait « Non, mais j'y crois pas du tout. Si BlackRock fait ça, c'est une honte. » Voilà. Et là, ça se fait. Donc, c'est ces gens-là, potentiellement, que ça pourrait faire changer.
Ces gens-là ont l'air d'être des adversaires qui ne changeront pas d'avis. Mais en tout cas, ils sont obligés de reconnaître que le Bitcoin, aujourd'hui, fait partie des actifs de diversification comme les autres, comme l'or. Ils sont bien obligés de le reconnaître, quoi. Et après, libre à eux de ne pas investir dedans, mais l'histoire se fera sans eux, alors.
Petit instant pédagogique. Quelle est la différence entre un ETF et un ETC? Parce que des ETC, on en a en Europe. Et ça pourrait se rapprocher d'un ETF Bitcoin Spot. Grégory, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et comment, du coup, en Europe, on pourrait s'exposer quasiment comme un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis.
On le disait précédemment, nous, en tant qu'Européens, on ne peut pas investir dans les ETF Bitcoin américains. Par contre, on a des produits qui sont quasiment similaires, qui s'appellent les ETC. Donc les ETC, ce sont des fonds où il n'y a qu'une seule valeur qui est à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, des Bitcoins. Et la différence avec l'ETF, vraiment, c'est en gros, c'est l'enveloppe juridique. Un ETF, en gros, vous investissez dans un fonds et vous, tous les gens qui ont des titres de ces fonds sont collectivement propriétaires de la réserve. Avec un ETC, donc la version européenne, en fait, c'est un titre de dette par rapport à l'émetteur qui, lui, a les Bitcoins de son côté. Ces produits, ils existent depuis, en fait, assez longtemps, sauf qu'en fait, personne ne le sait. C'est depuis 2015, hein, le premier émetteur, c'est CoinShare. Il y en a d'autres aujourd'hui, il y a 21Share, il y a HDEX, il y a ETC Group, il y a plein d'acteurs, sauf qu'en fait, on ne le savait pas et c'est un peu le problème avec beaucoup d'acteurs financiers européens. Tout est drivé par l'actualité américaine et là, en fait, on se réveille et on se dit « Ah, mais quand c'est qu'il y aura des ETF Bitcoin en Europe ?»
En fait, on en a déjà, c'est ça.
En fait, ils sont déjà là. Bon, après, c'est loin d'être des produits ridicules, hein, parce qu'il y a des milliards, hein, sous gestion. Par exemple, CoinShare, on est autour de 3 milliards. Hein. C'est quand même pas rien. Mais on s'attend quand même à ce que là, il y ait un boom, parce que les gens vont découvrir le sujet. On s'attend quand même à ce que les gens aillent voir leur banquier en leur disant bon bah voilà, sur mon compte titre j'aimerais bien mettre du Bitcoin, et le banquier devrait être en capacité de dire on ne peut pas investir dans l'ETF de BlackRock, par contre il y a les ETC de CoinShares, 21Shares et tous les autres.
Adli, par rapport à la cotation de l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, les horaires de Wall Street, donc c'est 9h30, 16h là-bas, est-ce que ça pourrait influer sur la cotation du réel Bitcoin qui lui est coté 24h sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que la cotation du Bitcoin pourrait se corréler à la nouvelle cotation de cet ETF?
J'ai envie de dire que le Bitcoin a déjà plus ou moins des corrélations horaires suivant l'ouverture des différentes bourses. Parce que les traders aiment prendre du repos, même si c'est un marché H24. Donc c'est déjà les heures américaines, de bourse américaine où il y a le plus de volume sur les marchés, plus les heures aussi asiatiques. Je pense pas que ça va nécessairement créer du changement. En plus, il y avait déjà le cas de marché qui s'arrête avec les futurs. Donc il y avait déjà des gaps ou ce genre de choses. Donc a priori, je pense pas que ça aura un grand impact. Ça aura peut-être vu que c'est un ETF spot, ça aura peut-être un plus grand impact dans le sens où si les ventes ne sont pas effectuées le week-end et qu'il y a beaucoup de ventes sur ou d'achats entre guillemets sur une ouverture, ça pourrait avoir un impact. Parce que là, il y aura un vrai achat de Bitcoin derrière.
Grégory, pour toi, ça peut avoir un impact ou alors comme Adli, ça changera pas forcément grand-chose?
En fait, on se pose la question depuis quand même pas mal d'années sur qui suit le Bitcoin. Est-ce que c'est les marchés traditionnels ou est-ce que c'est le Bitcoin? Il y a eu le lancement des contrats à terme sur le CME de Chicago fin 2017. Donc, c'était en gros l'arrivée des institutionnels. Et c'est vrai que depuis que ce marché existe, il a tendance à driver un petit peu les projections du Bitcoin. Par contre, il faut pas oublier que le marché du Bitcoin, pour l'instant, est à très grande majorité retail. Donc, c'est ce qui se passe sur les exchanges crypto, pour l'instant, qui drive le truc, je pense. Si dans deux ans, par exemple, les ETF Bitcoin pèsent, on va dire, je sais pas, 100 milliards, ça risque d'avoir une influence là. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt le spot qui influence le reste.
Depuis trois ans, honnêtement, je pense pas que ce soit le marché retail. Je dirais pas que c'est le marché traditionnel, mais je dirais que c'est les institutionnels dans les cryptos qui drivent entre guillemets le marché plus que les retails des cryptos, comme c'était le cas, je pense, pour le coup en 2017-2018.
C'est sûr que c'est regardé, mais les volumes sur le spot sont encore infiniment supérieurs. C'est ça qui est intéressant quand même dans le Bitcoin, c'est le premier marché où en fait c'est les retails qui sont arrivés largement avant les institutionnels, et c'est pour ça qu'on est un peu dans une terre inconnue en fait avec le Bitcoin.
On ne sait pas comment ça se passait du coup. Bon, on verra ça de toute façon, comment ça va évoluer. Rapidement, on pourrait avoir dans les prochains mois, certains disent qu'il y a 70% de l'avoir avant le mois de mai, un ETF Ethereum Spot. Est-ce qu'on pourrait voir aussi d'autres cryptos moins capitalisées que l'Ethereum avoir un ETF, Adli?
Ça me semble compliqué, hein. Pour le coup, je pense que...
Certains parlaient de Solana, de Link...
Autant sur Bitcoin, comment dire, l'aspect securities, commodities, enfin le fait de savoir si c'est donc une commodité ou une security, je ne sais même plus comment on dit en français.
Un titre financier.
cette différence-là, elle était plus ou moins actée depuis longtemps sur Bitcoin. Elle l'est déjà un peu moins sur Ethereum, même si pour le coup Ethereum n'a pas été cité comme une security dans les différents dossiers qui sont passés devant la justice, quand il y a eu le dossier contre Coinbase, les dossiers dans les liquidations, où par contre la majeure partie du reste des cryptos ont été définies comme des securities.
Ouais, donc ça
je pense que tant qu'il n'y a pas un éclaircissement sur cette dichotomie, ce sera très compliqué d'avoir un ETF d'autres cryptos, parce qu'on pourrait penser qu'elles sont dans la mauvaise classe d'actifs, entre guillemets.
Donc compliqué pour toi, a priori. Compliqué pour toi, a priori, Grégory.
Ouais, ça me semble compliqué, parce que vraiment, il n'y a qu'Ethereum où le doute est à peu près dissipé aussi, d'un point de vue de la qualification. Et donc, j'ai du mal à penser, oui, qu'on va voir des plus petites avoir des ETF.
Grégory, il reste quelques secondes, t'es du même avis?
Ouais, je suis d'accord avec ça. Effectivement, la SEC considère qu'il n'y a que Bitcoin et à un degré moindre Ethereum qui peuvent correspondre à des commodities. Le reste, c'est des securities. Par contre, en Europe, il y a déjà des ETC sur Solana, en gros, sur le top 10, top 20 des cryptos. En Europe, on est moins, comment dire, radicaux qu'aux États-Unis sur la classification.
Ils sont beaucoup utilisés.
Comment ?
Ils sont beaucoup utilisés, ces ETC sur les autres cryptos.
Pas assez encore, parce qu'ils ne sont pas assez connus, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Mais par contre, en Europe, ça, c'est des cryptoactifs. Il n'y a pas de, distinction. Enfin, disons qu'il y a une distinction très claire par rapport aux titres financiers. Donc, on n'a pas ce problème-là. Ça existe déjà en Europe.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Adli Takal Bataille, président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Prochain rendez-vous crypto, c'est demain 15h avec Guillaume Sommerer, les pros des cryptos. Bonne journée, bonne soirée et soyez là demain 15h.
BFM Business, BFM Crypto, le club.